This recording accompanies the Language B Higher Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension, for French, November 2022.
Cet enregistrement accompagne l'examen de Langue B, Niveau supérieur, Épreuve 2, Compréhension orale de Français, novembre 2022.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel superior, prueba 2, comprensión auditiva, de francés, noviembre 2022.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Texte A. Maintenant, vous avez 4 minutes pour lire les questions.
vous allez entendre Mia parler de musique afro-antillaise.
Pour notre série sur les styles musicaux autour du monde, je vous propose de nous intéresser à la musique afro-antillaise. Vous le savez déjà, la musique africaine est de plus en plus populaire, dans la francophonie comme dans le reste du monde. On ne compte plus le nombre de musiciens d'origine africaine qui rendent hommage à leur origine en jouant des instruments de musique typiquement africains. Récemment, un chanteur très connu a beaucoup fait parler de lui grâce à son clip, qui commence par une partie instrumentale de plusieurs minutes jouée à la kora. Et c'est absolument magique. La kora, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un instrument à cordes qui vient du Mali, mais qui est joué dans toute l'Afrique de l'Ouest. D'ailleurs, je vous conseille vivement de rechercher des morceaux joués à la kora sur Internet. Vous n'allez pas être déçus. Bref, on assiste à une vraie mondialisation musicale où l'Afrique influence de plus en plus de styles. Mais bien plus qu'une simple influence, l'Afrique est aussi à l'origine de nombreuses traditions musicales. Et c'est d'une de ces traditions dont je vous parle après la pause. Je vous emmène dans mon endroit préféré, les Antilles. Et ce n'est pas mon endroit préféré parce que c'est d'où je viens, mais plutôt parce que dans les Antilles, la musique est partout. Si je vous dis musique antillaise, vous pensez tout de suite au zouk, non? Eh bien, vous n'avez pas tort. Depuis sa création dans les années 70, le zouk reste extrêmement populaire. Mais la musique antillaise, ce n'est pas que le zouk. Avez-vous déjà entendu parler du gwoka? Originaire de Guadeloupe, le gwoka est une tradition musicale afro-antillaise qui date de l'époque de l'esclavage. Passé de génération en génération, le gwoka est tellement important qu'il est même inscrit sur la liste du patrimoine culturel de l'UNESCO depuis 2014. Alors, qu'est-ce que c'est? Le gwoka, c'est une forme d'expression culturelle et artistique qui mélange la musique, le chant et la danse. Il réunit la communauté pour rendre hommage à nos ancêtres autour de valeurs comme la solidarité et la défense de l'identité. Pour nos ancêtres, la musique c'était l'espoir, alors il y a des rythmes pour tout, le travail, la fête, la mort, etc. Alors, comment se passe une séance de gwoka? D'abord, le public et les musiciens forment un cercle. Le chanteur principal chante en créole et les autres chanteurs lui répondent. Le tambour, appelé le ka, donne le rythme. Et les danseurs se succèdent au milieu du cercle, un par un, pour improviser. Pour moi, le gwoka, c'est la musique qui représente l'identité guadeloupéenne.
Maintenant, vous avez 2 minutes avant d'entendre l'enregistrement pour la deuxième et dernière fois.
Pour notre série sur les styles musicaux autour du monde, je vous propose de nous intéresser à la musique afro-antillaise. Vous le savez déjà? La musique africaine est de plus en plus populaire, dans la francophonie comme dans le reste du monde. On ne compte plus le nombre de musiciens d'origine africaine qui rendent hommage à leur origine en jouant des instruments de musique typiquement africains. Récemment, un chanteur très connu a beaucoup fait parler de lui grâce à son clip, qui commence par une partie instrumentale de plusieurs minutes jouée à la kora. Et c'est absolument magique. La kora, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un instrument à cordes qui vient du Mali, mais qui est joué dans toute l'Afrique de l'Ouest. D'ailleurs, je vous conseille vivement de rechercher des morceaux joués à la kora sur Internet. Vous n'allez pas être déçus. Bref, on assiste à une vraie mondialisation musicale où l'Afrique influence de plus en plus de styles. Mais bien plus qu'une simple influence, l'Afrique est aussi à l'origine de nombreuses traditions musicales. Et c'est d'une de ces traditions dont je vous parle après la pause. Je vous emmène dans mon endroit préféré, les Antilles. Et ce n'est pas mon endroit préféré parce que c'est d'où je viens, mais plutôt parce que dans les Antilles, la musique est partout. Si je vous dis musique antillaise, vous pensez tout de suite au zouk, non? Eh bien, vous n'avez pas tort. Depuis sa création dans les années 70, le zouk reste extrêmement populaire. Mais la musique antillaise, ce n'est pas que le zouk. Avez-vous déjà entendu parler du gwoka? Originaire de Guadeloupe, le gwoka est une tradition musicale afro-antillaise qui date de l'époque de l'esclavage. Passé de génération en génération, le gwoka est tellement important qu'il est même inscrit sur la liste du patrimoine culturel de l'UNESCO depuis 2014. Alors, qu'est-ce que c'est? Le gwoka, c'est une forme d'expression culturelle et artistique qui mélange la musique, le chant et la danse. Il réunit la communauté pour rendre hommage à nos ancêtres autour de valeurs comme la solidarité et la défense de l'identité. Pour nos ancêtres, la musique c'était l'espoir, alors il y a des rythmes pour tout, le travail, la fête, la mort, etc. Alors, comment se passe une séance de gwoka? D'abord, le public et les musiciens forment un cercle. Le chanteur principal chante en créole et les autres chanteurs lui répondent. Le tambour, appelé le ka, donne le rythme et les danseurs se succèdent au milieu du cercle, un par un, pour improviser. Pour moi, le gwoka, c'est la musique qui représente l'identité guadeloupéenne.
Maintenant, vous avez 2 minutes et 30 secondes pour finir de répondre aux questions. texte B. Maintenant, vous avez 4 minutes pour lire les questions.
Vous allez entendre Tessa interviewer Martin pour le magazine Les Français à l'étranger.
Alors Martin, vous habitez en Australie, c'est ça?
Oui, je suis arrivé il y a 12 ans maintenant.
Ah oui, c'est le rêve d'habiter là-bas.
Eh bien, c'était le rêve de ma petite amie de l'époque.
Et vous aviez quel âge quand vous êtes arrivé?
On avait 21 ans tous les deux.
21 ans? C'est un bon âge pour voyager, ça.
Tout à fait.
Et vous aviez un travail en arrivant?
Ah non, pas du tout. L'idée, c'était d'emménager chez un ami et de chercher un travail sur place. Mais on n'était pas inquiets. On avait beaucoup économisé et puis on avait entendu dire que c'était facile de trouver du travail dans l'hôtellerie. Donc oui, on est vraiment arrivé décontracté.
Ah, c'est surprenant. Et pour le visa, vous aviez fait la demande sur place aussi ?
Ah non, pas sur place. On ne plaisante pas avec les visas. On avait fait une demande en ligne plusieurs mois avant le départ pour un visa vacances-travail, qu'on a eu dans un délai assez court. Si je me souviens bien, on avait fait notre demande en avril et on l'a obtenue en juillet.
Et combien ça vous avait coûté ?
Oula ! À l'époque, ça a dû nous coûter environ 200 euros chacun.
Ok, pas trop cher. Et ce visa vacances-travail, il vous donnait quel droit ?
Ah, eh bien, entre autres, le droit de rester en Australie pendant un an et puis le droit de travailler pour un employeur pendant 6 mois maximum.
Et alors ça, c'était votre premier visa, c'est bien ça ?
Oui, c'était le premier. En fait, ce qui était particulièrement cool avec ce visa, c'est qu'on pouvait aussi le renouveler pour une deuxième année.
Ah oui, c'est un plus. Ah, pardon, je le mets en silencieux. Donc, vous disiez que ce visa pouvait être renouvelé, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Mais par contre, pour le renouveler, la condition, c'était qu'il fallait travailler dans une ferme pendant 3 mois.
Ah oui ? Et donc vous avez fait ça où ?
Bon, d'abord, on a essayé de rester près de la ville. On n'avait pas vraiment envie de quitter Brisbane, on y était bien. Mais la seule ferme qui voulait bien de nous était une ferme de bananes dans un village complètement perdu à 1500 kilomètres.
Et qu'est-ce que vous faisiez exactement dans cette ferme ?
Eh bien, il y avait plusieurs équipes avec des tâches différentes. Mais nous, on était debout toute la journée et les bananes défilaient devant nous dans l'eau. Et on devait trier les bananes. On gardait les vertes et on jetait celles qui étaient tachées. Bref, les journées étaient longues.
Oui, j'imagine. Et vous étiez beaucoup à faire ça ?
Oh, on devait être une trentaine. Tous moins de 30 ans, venus d'un peu partout. Il y avait des Anglais, des Indiens, des Taïwanais, des Français, des Coréens. On travaillait de longues heures le jour et le soir, on rentrait en bus. On habitait tous dans une sorte de motel.
Et globalement, c'était une bonne expérience.
Oui, bon, le travail n'était pas toujours palpitant, mais on formait une petite communauté. C'était fabuleux d'être tous réunis au même endroit pour la même raison.
Comment ça ?
On était très différents. Mais on voulait tous prolonger ce visa pour faire durer cette parenthèse dans nos vies. Rester juste un an de plus pour ne pas rentrer à la maison. Arrêter le temps pour ne pas devoir devenir adulte.
Je comprends, tout à fait.
Maintenant, vous avez 2 minutes avant d'entendre l'enregistrement pour la deuxième et dernière fois.
Alors, Martin, vous habitez en Australie, c'est ça?
Oui, je suis arrivé il y a 12 ans maintenant.
Ah oui, c'est le rêve d'habiter là-bas.
Eh bien, c'était le rêve de ma petite amie de l'époque.
Et vous aviez quel âge quand vous êtes arrivé?
On avait 21 ans tous les deux.
21 ans? C'est un bon âge pour voyager, ça.
Tout à fait.
Et vous aviez un travail en arrivant?
Ah non, pas du tout. L'idée, c'était d'emménager chez un ami et de chercher un travail sur place. Mais on n'était pas inquiets. On avait beaucoup économisé et puis on avait entendu dire que c'était facile de trouver du travail dans l'hôtellerie. Donc oui, on est vraiment arrivé décontracté.
Ah, c'est surprenant. Et pour le visa, vous aviez fait la demande sur place aussi?
Ah non, pas sur place. On ne plaisante pas avec les visas. On avait fait une demande en ligne plusieurs mois avant le départ pour un visa vacances-travail, qu'on a eu dans un délai assez court. Si je me souviens bien, on avait fait notre demande en avril et on l'a obtenue en juillet.
Et combien ça vous avait coûté?
Oula! À l'époque, ça a dû nous coûter environ 200 euros chacun.
Ok, pas trop cher. Et ce visa vacances-travail, il vous donnait quel droit?
Ah, eh bien, entre autres, le droit de rester en Australie pendant un an et puis le droit de travailler pour un employeur pendant 6 mois maximum.
Et alors ça, c'était votre premier visa, c'est bien ça?
Oui, c'était le premier. En fait, ce qui était particulièrement cool avec ce visa, c'est qu'on pouvait aussi le renouveler pour une deuxième année.
Ah oui, c'est un plus! Ah, pardon, je le mets en silencieux. Donc, vous disiez que ce visa pouvait être renouvelé, c'est ça?
Oui, c'est ça. Mais par contre, pour le renouveler, la condition, c'était qu'il fallait travailler dans une ferme pendant 3 mois.
Ah oui? Et donc vous avez fait ça où?
Bon, d'abord, on a essayé de rester près de la ville. On n'avait pas vraiment envie de quitter Brisbane, on y était bien. Mais la seule ferme qui voulait bien de nous était une ferme de bananes dans un village complètement perdu à 1500 kilomètres.
Et qu'est-ce que vous faisiez exactement dans cette ferme?
Eh bien, il y avait plusieurs équipes avec des tâches différentes. Mais nous, on était debout toute la journée et les bananes défilaient devant nous dans l'eau. Et on devait trier les bananes. On gardait les vertes et on jetait celles qui étaient tachées. Bref, les journées étaient longues.
Oui, j'imagine. Et vous étiez beaucoup à faire ça?
Oh, on devait être une trentaine. Tous moins de 30 ans, venus d'un peu partout. Il y avait des Anglais, des Indiens, des Taïwanais, des Français, des Coréens. On travaillait de longues heures le jour et le soir, on rentrait en bus. On habitait tous dans une sorte de motel.
Et globalement, c'était une bonne expérience.
Oui, bon, le travail n'était pas toujours palpitant, mais on formait une petite communauté. C'était fabuleux d'être tous réunis au même endroit pour la même raison.
Comment ça?
On était très différents. Mais on voulait tous prolonger ce visa pour faire durer cette parenthèse dans nos vies. Rester juste un an de plus pour ne pas rentrer à la maison. Arrêter le temps pour ne pas devoir devenir adulte.
Je comprends, tout à fait.
Maintenant, vous avez 2 minutes et 30 secondes pour finir de répondre aux questions.
Texte C. Maintenant, vous avez 4 minutes pour lire les questions. Vous allez entendre Eva parler à des étudiants du programme de mentorat de l'université.
Bonjour à tous. Bon, je vais essayer d'être rapide. Je me présente, je m'appelle Eva et si je suis ici aujourd'hui, devant vous, c'est parce que j'ai été invitée par l'université pour promouvoir le programme de mentorat, dont je suis ambassadrice. Le mentorat se passe entre deux personnes, le mentoré et le mentor. Alors, qu'est-ce que c'est un mentor ? Un mentor, c'est quelqu'un qui a de l'expérience professionnelle et qui s'engage, de façon volontaire,
à partager cette expérience avec quelqu'un qui en a moins. Le rôle d'un mentor, c'est de faciliter l'insertion professionnelle de son mentoré. Alors, comment ça marche? Eh bien, concrètement, un mentor peut vous offrir des conseils précis pour améliorer votre CV ou vous préparer pour des entretiens d'embauche. Alors, je sais ce que vous pensez. Moi, j'ai des amis et de la famille, et ils font déjà ça. Et c'est très gentil de leur part. Mais je peux vous assurer que rien ne vaut un mentor pour votre carrière. Pourquoi? Parce que votre famille et vos amis peuvent vous conseiller, certes. Mais votre mentor sera une source de motivation et d'ambition. Grâce à son regard neutre, vous pourrez vous exprimer sans jugement et dans la confidentialité. Cela vous permettra de développer vos compétences professionnelles et de faire progresser vos projets. J'ai fait circuler des prospectus dans l'amphithéâtre. Je vais faire une petite pause pour m'assurer que vous en avez tous un. C'est bon? Parfait. Moi, j'ai été des deux côtés. Et à la fin de mes études, je ne me sentais pas prête à intégrer le monde du travail. Mais grâce à ce même programme dont je vous parle aujourd'hui, j'ai rencontré ma mentor. Elle m'a invitée à des événements de formation auxquels je n'aurais jamais assisté sans elle. Et sa connaissance du marché du travail m'a vraiment facilité le chemin. Du coup, maintenant que j'ai ma propre entreprise, je suis devenue mentor aussi. Alors, si ce programme vous intéresse, je vous invite à assister à un événement qui aura lieu le jeudi 4 mai à partir de 17h. Les inscriptions pour cette soirée sont ouvertes sur Internet dès maintenant. Tout est gratuit et nous mettrons à votre disposition des petits fours pour l'occasion. Vous pourrez, si vous le désirez, rencontrer des mentors potentiels à la cafétéria du Campus 2, dans une atmosphère décontractée, mais professionnelle. Le but de cette soirée, c'est de mettre en relation des étudiants avec leurs futurs mentors. Donc, si vous avez besoin de conseils pour mieux comprendre les carrières qui peuvent s'offrir à vous, ou bien si ce dont vous avez besoin, c'est d'un suivi professionnel, je vous encourage vivement à assister à cette soirée. Cet événement vous permettra de discuter de votre plan de carrière avec des gens qui sont véritablement intéressés. D'ailleurs, pour garantir cet intérêt et terminer la soirée en beauté, le mentor et le mentoré auront l'opportunité de se choisir mutuellement selon leur secteur et leur centre d'intérêt. En effet, il est extrêmement important que cette relation soit enrichissante d'un point de vue professionnel et personnel. Merci de m'avoir écouté et j'espère que je vous aurai donné l'envie de nous rejoindre pour cette opportunité de lancer votre carrière. Bon cours et à bientôt, j'espère.
Maintenant, vous avez 2 minutes avant d'entendre l'enregistrement pour la deuxième et dernière fois.
Bonjour à tous. Bon, je vais essayer d'être rapide. Je me présente, je m'appelle Eva et si je suis ici aujourd'hui, devant vous, c'est parce que j'ai été invitée par l'université pour promouvoir le programme de mentorat dont je suis ambassadrice. Le mentorat se passe entre deux personnes, le mentoré et le mentor. Alors, qu'est-ce que c'est un mentor ? Un mentor, c'est quelqu'un qui a de l'expérience professionnelle et qui s'engage, de façon volontaire, à partager cette expérience avec quelqu'un qui en a moins. Le rôle d'un mentor, c'est de faciliter l'insertion professionnelle de son mentoré. Alors, comment ça marche ? Eh bien, concrètement, un mentor peut vous offrir des conseils précis pour améliorer votre CV ou vous préparer pour des entretiens d'embauche. Alors, je sais ce que vous pensez. Moi, j'ai des amis et de la famille, et ils font déjà ça. Et c'est très gentil de leur part. Mais je peux vous assurer que rien ne vaut un mentor pour votre carrière. Pourquoi ? Parce que votre famille et vos amis peuvent vous conseiller, certes. Mais votre mentor sera une source de motivation et d'ambition. Grâce à son regard neutre, vous pourrez vous exprimer sans jugement et dans la confidentialité. Cela vous permettra de développer vos compétences professionnelles et de faire progresser vos projets. J'ai fait circuler des prospectus dans l'amphithéâtre. Je vais faire une petite pause pour m'assurer que vous en avez tous un. C'est bon ? Parfait. Moi, j'ai été des deux côtés. Et à la fin de mes études, je ne me sentais pas prête à intégrer le monde du travail. Mais grâce à ce même programme dont je vous parle aujourd'hui, j'ai rencontré ma mentor. Elle m'a invitée à des événements de formation auxquels je n'aurais jamais assisté sans elle. Et sa connaissance du marché du travail m'a vraiment facilité le chemin. Du coup, maintenant que j'ai ma propre entreprise, je suis devenue mentor aussi. Alors, si ce programme vous intéresse, je vous invite à assister à un événement qui aura lieu le jeudi 4 mai à partir de 17h. Les inscriptions pour cette soirée sont ouvertes sur Internet dès maintenant. Tout est gratuit et nous mettrons à votre disposition des petits fours pour l'occasion. Vous pourrez, si vous le désirez, rencontrer des mentors potentiels à la cafétéria du Campus 2, dans une atmosphère décontractée, mais professionnelle. Le but de cette soirée, c'est de mettre en relation des étudiants avec leurs futurs mentors. Donc, si vous avez besoin de conseils pour mieux comprendre les carrières qui peuvent s'offrir à vous, ou bien si ce dont vous avez besoin, c'est d'un suivi professionnel, je vous encourage vivement à assister à cette soirée. Cet événement vous permettra de discuter de votre plan de carrière avec des gens qui sont véritablement intéressés. D'ailleurs, pour garantir cet intérêt et terminer la soirée en beauté, le mentor et le mentoré auront l'opportunité de se choisir mutuellement selon leur secteur et leur centre d'intérêt. En effet, il est extrêmement important que cette relation soit enrichissante d'un point de vue professionnel et personnel. Merci de m'avoir écouté et j'espère que je vous aurai donné l'envie de nous rejoindre pour cette opportunité de lancer votre carrière. Bon cours et à bientôt, j'espère.
Maintenant, vous avez le reste du temps pour finir de répondre aux questions.